Demain, 10h, 11h30, et au programme des invités 3 étoiles, Philippe Candeloro et Nelson Montfort, candidats d'une nouvelle émission sur W9, ainsi que Francis Huster, actuellement au théâtre Antoine. Rendez-vous demain, 10h, 11h30, pour Culture Média. Il est presque 13h sur Europe 1. Bon dimanche. Vous écoutez Europe 1, il est 13h. L'essentiel de l'actualité à 13h, c'est avec Margot Siffer. Rebonjour Margot.
Rebonjour Estelle, bonjour à tous. Face aux menaces douanières de Donald Trump, Emmanuel Macron plaide pour la méthode forte. Il demande l'activation de l'instrument anti-coercition de l'Union européenne. Il permet notamment le gel de l'accès aux marchés publics européens ou le blocage de certains investissements. Rachida Dati quittera le gouvernement avant les municipales, annonce ce matin de la ministre de la Culture. Elle espère briguer d'ici 2 mois la mairie de Paris. Pas de censure du gouvernement par le PS à 2 conditions, avoir la copie budgétaire complète promise par Sébastien Lecornu et que le financement des mesures ne se fasse pas sur le dos des Français, mais en partie sur les grandes entreprises. La cote de popularité d'Emmanuel Macron au plus bas, seulement 18% d'opinion favorable, résultat d'un sondage Ipsos pour la Tribune du dimanche, 29% d'opinion positive pour Sébastien Lecornu qui reste stable. Effondrement cette nuit de l'étage d'un immeuble parisien. Ça s'est passé lors d'une soirée dans le 11e arrondissement. Une victime retrouvée sous les décombres en arrêt cardiaque, 19 autres en urgence relative. Nouvel épisode de violence hier à Salon de Provence. Un élève surveillant victime d'une agression, un détenu lui a porté un coup de lame à la gorge. Il a été légèrement blessé. Un policier également blessé vendredi à Lyon lors d'un refus d'obtempérer. Ça s'est passé lors d'un rodéo urbain. 3 motards sont activement recherchés. Un spectacle de Dieudonné interrompu hier soir par la préfecture des Alpes-Maritimes, 200 spectateurs réunis sur les hauteurs de Grasse, et cela en dépit d'une interdiction préfectorale en cause des propos évidemment à caractère antisémite et qui incitent à la haine. Le Mercosur a signé hier au Paraguay après 25 ans de négociations, un accord qui n'est pas équilibré, estime sur Europe 1 et CNews Annie Genevard. Plusieurs centaines de tracteurs attendus aujourd'hui à Bruxelles en guise de protestation, une mobilisation d'agriculteurs également prévus ce mardi à Strasbourg au Parlement européen. Donald Trump ne pouvait pas rester les bras croisés. Il qualifie le guide suprême iranien d'homme malade et qui devrait cesser de tuer des gens. Hier, Ali Khamenei lui avait imputé la responsabilité des violences en Iran. Les écoles de Téhéran et d'autres villes fermées depuis le 10 janvier rouvrent ce dimanche. Nouveau bombardement russe cette nuit sur l'Ukraine. Une femme de 20 ans tuée à Kharkiv. 4 autres blessés, dont un enfant de 7 ans a soumis et 200 000 foyers privés d'électricité. En France, la tempête arrive à s'installer petit à petit sur le sud de l'Hexagone. Une dépression méditerranéenne qui va apporter de fortes pluies, des chutes de neige abondantes et des vents soutenus. En attendant, 5 départements sont en vigilance orange. L'Aveyron, l'Hérault et l'Aude pour crues. L'Hérault, l'Aude, la Haute-Corse et la Corse du Sud pour pluies et inondations. Et puis, on termine avec l'équipe de France de handball qualifiée pour le tour principal de l'Euro 2026. C'est grâce à la victoire 29-25 de la Norvège contre la République tchèque. Les Bleus affronteront lundi les Norvégiens pour valider la première place de leur groupe et aborder la suite avec un maximum de points. Europe 1. 13h03 sur Europe 1, tout de suite en quête d'esprit avec Aymeric Pourbet.
13h, 14h. En quête d'esprit, CNews Europe 1, Aymeric Pourbet.
Bonjour à tous, bienvenue dans Enquête d'esprit sur CNews et Europe 1. Le pape Léon XIV a récemment placé le respect de la vie en tête de ses priorités de l'année lors de son grand discours aux ambassadeurs du monde entier. Au même moment, en France, les sénateurs s'apprêtent à voter la loi sur la fin de vie, un texte qui prévoit un droit à l'aide à mourir, c'est-à-dire la possibilité du suicide assisté. Avec ce texte, les religieuses qui accompagnent des personnes en fin de vie seront-elles demain hors la loi si elles refusent l'euthanasie ? Elles le craignent et c'est pourquoi 3 d'entre elles ont rencontré ces jours-ci les sénateurs. Quelle alternative et surtout quelle espérance porte-t-elle face à cette mort administrée ? On en parle aujourd'hui dans Enquête d'esprit avec nos invités que l'on retrouve dans un instant pour cette émission qui est en partenariat avec France Catholique. Bonjour Éloi Roger. Serge Brune, les informations religieuses avec vous. Et justement, on continue avec la fin de vie, puisque les évêques de France interpellent les sénateurs.
On ne prend pas soin de la vie en donnant la mort. Dans un communiqué publié jeudi, les évêques de France s'opposent une nouvelle fois à la légalisation de l'euthanasie. L'Église dénonce un texte parmi les plus permissifs au monde, qui menace les plus fragiles et qui remet en cause le respect dû à toute vie humaine. Ils appellent les citoyens à écrire aux sénateurs à l'approche de l'examen au Sénat du projet de loi sur la fin de vie à partir de mardi prochain. 388 millions de chrétiens persécutés dans le monde, c'est un constat alarmant dressé par l'ONG Portes Ouvertes dans son index publié mardi. Afrique subsaharienne, Moyen-Orient, la violence explose contre les chrétiens. Vois ça dans le détail avec Vincent Fandège.
En juin dernier, un attentat suicide frappait l'église Saint-Élie à Damas, en Syrie. 22 personnes étaient tuées, plus de 60 blessées. Chaque année, l'ONG Portes Ouvertes classe les pays les plus dangereux au monde pour les chrétiens. Dans cette étude, dominée par la Corée du Nord et la Somalie, la Syrie a fait cette année un bond de la 18e à la 6e place, après la chute de Bachar el-Assad.
Il y a eu des persécutions, pas causées par les nouvelles autorités, mais par une situation de crise de la sécurité, manque de contrôle étatique. Derrière, les églises ont réduit leurs activités. Beaucoup de chrétiens n'osent plus se rendre à l'église parce qu'ils ont peur. Des menaces de mort ont été taguées sur la devanture de certaines églises.
L'ONG estime que plus de 388 millions de chrétiens sont persécutés à travers le monde. C'est un fidèle sur sept. Et les explications sont multiples.
Il y a de plus en plus de cas de faits de violence, des églises attaquées, des chrétiens qui vont être tués en raison de leur foi, kidnappés, passés à tabac. Il y a de plus en plus de restrictions légales autour des grandes libertés, liberté de se convertir, de partager sa foi, de se réunir pacifiquement pour des activités religieuses.
Au moins 4849 chrétiens ont été tués l'an dernier, la grande majorité d'entre eux au Nigeria. Selon l'ONG, l'Afrique subsaharienne serait devenue le nouvel épicentre du djihadisme.
Le Conseil d'État tranche en faveur de la maison d'éducation Pauline-Marie Jaricot. Cette école catholique hors contrat dans l'Ain était menacée de fermeture par le ministère de l'Éducation nationale. Un bras de fer juridique remporté donc par Thérèse Madi, directrice pédagogique de l'établissement, et qui met fin à des mois de harcèlement judiciaire selon elle. Écoutez.
Nous, on a vécu cette situation, oui, comme un véritable harcèlement. Harcèlement sur notre établissement, harcèlement sur le corps professoral, du harcèlement vis-à-vis de la jeunesse, un harcèlement contre les parents qui se voient privés d'un mode éducatif qu'ils ont choisi. Je pense notamment aux enfants, aux parents des enfants porteurs de handicap. Donc, j'ai envie de dire, la leçon à tirer de tout ça, c'est ne pas lâcher. Parce que nous avons encore des juges aujourd'hui qui sont capables de juger des choses avec impartialité. Pour moi, c'est si on est encore ouvert, c'est grâce à l'impartialité des juges qui ont su, avec professionnalisme, noter que notre école n'avait pas de raison de subir une fermeture, un tel acharnement, et qu'on avait le droit d'exister. Et d'ailleurs, le juge du tribunal administratif, il a bien dit que c'était une violation sur les libertés fondamentales.
Et pour terminer, une fresque paléo-chrétienne représentant Jésus en bon pasteur, découverte en Turquie. Un mois après le voyage du pape, les autorités turques ont annoncé fin décembre dernier la mise au jour à İznik d'une représentation du Christ datant du 3e siècle dans un caveau funéraire. C'est un Jésus jeune, vêtu à la romaine, portant une chèvre sur ses épaules. C'est la fin de votre journal, Aymeric, c'est à vous pour la suite d'Enquête d'Esprit.
Merci Éloi Rochebrune, on parle de la fin de vie aujourd'hui dans Enquête d'Esprit et puis de l'espérance chrétienne face à la mort avec sœur Agnès du Bon Pasteur. Bonjour ma sœur, bienvenue.
Bonjour, Marie,
dans cette émission. Vous êtes religieuse chez les Petites Sœurs des Pauvres à Rennes. Les Petites Sœurs des Pauvres, c'est une trentaine de maisons en France, je le précise. Vous êtes médecin de formation et vous avez rencontré ces jours-ci les sénateurs au sujet justement du projet de loi sur la fin de vie. Vous nous direz votre inquiétude pour les établissements catholiques de soins. Avec nous également Grégoire Pupinck, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur du Centre européen pour le droit et la justice et vous êtes le coordinateur d'une tribune qui est parue dans la presse sur justement ces institutions catholiques qui craignent pour leur liberté de conscience. Vous êtes l'auteur, je le précise, des droits de l'homme dénaturés aux éditions du CERF. Le docteur Geneviève Bourgeois est avec nous. Bonjour, bonjour, bienvenue. Vous êtes médecin gériatre dans l'hôpital associatif Saint-Jean à Briard, c'est dans le Loiret. Vous pratiquez les soins palliatifs et vous êtes également une des porte-parole de la Marche pour la vie qui a lieu ce dimanche à Paris. Et puis bien sûr, Véronique Jacquier est avec nous. Bonjour Véronique.
Bonjour Aymeric, bonjour à tous.
Bonjour. Alors Véronique, il faut revenir sur ce qu'a dit le pape justement début janvier, parce que c'est un discours très important, celui qui est prononcé aux ambassadeurs du monde entier, donc qui vraiment s'adresse à tout l'univers, et qui concerne en général la vision géopolitique. Mais cette fois, le pape a choisi de mettre le droit à la vie au cœur de son discours et de ses préoccupations.
Oui, tout à fait. Léon XIV a évoqué la vie comme un don inestimable, un don à protéger. La famille en est la gardienne responsable. Le Saint-Père s'inquiète de la baisse dramatique du taux de natalité dans certains pays et plus encore de l'avortement. Il estime déplorable que des ressources publiques soient consacrées à la suppression de la vie au lieu d'être investies dans le soutien aux mères et aux familles. Et puis le pape espère la promotion de politiques de solidarité authentiques plutôt que l'encouragement, je le cite, à des formes de compassion illusoire comme l'euthanasie. Compassion illusoire comme l'euthanasie. On va en reparler, bien entendu. Alors, la protection du droit à la vie constitue le fondement incontournable de tout autre droit humain. Voilà ce que dit Léon XIV. Une société n'est saine et avancée que lorsqu'elle protège le caractère sacré de la vie humaine et s'efforce activement de la promouvoir. Et alors, ce droit à la vie est inséparable d'autres droits, dit le Saint-Père. Droits que nous allons donc évoquer, comme la liberté de conscience, la liberté d'expression, la liberté religieuse. Sur la liberté de conscience, c'est important, il faut s'arrêter là-dessus. Léon XIV analyse qu'elle semble faire l'objet d'une remise en question accrue de la part des États, y compris ceux qui se déclarent fondés sur la démocratie et les droits de l'homme. On peut penser donc à la France, pas forcément la Chine. L'objection de conscience n'est pas une rébellion, mais un acte de fidélité à soi-même. Voilà ce que dit Léon XIV, notamment, donc il le dit clairement, notamment dans le refus de pratiquer un acte d'avortement ou d'euthanasie lorsqu'on est un professionnel de santé. Enfin, qui dit remise en question du droit à la vie et à la liberté de conscience implique forcément une forme subtile de discrimination religieuse, dit le Saint-Père, que ce soit en Europe ou en Amérique, je cite ses propos, cette discrimination consiste à limiter la possibilité des chrétiens d'annoncer des vérités évangéliques, notamment quand ils défendent la dignité des plus faibles. Voilà donc quelques-unes des paroles très fortes prononcées par Léon XIV le 9 janvier dernier.
Merci beaucoup Véronique pour ces éclaircissements. Grégoire Pupin, c'est étonnant parce qu'effectivement dans ce discours, on va revenir sur les points essentiels parce que ça concerne en réalité le monde entier, mais aussi la France. Déjà, notez peut-être cet étonnement devant le fait que pour un discours consacré à la géopolitique, le pape mette au cœur le droit naturel à la vie.
Oui, tous les ans, le pape délivre un discours important aux ambassadeurs. Ce discours adresse, vise les points centraux qui sont de grands enjeux pour le monde, en fait. Et pour le pape Léon XIV, maintenant, il est clair que cet enjeu du respect de la vie, il en a pris conscience, il le dit, est central.
C'est son premier discours, en plus.
C'est son premier discours, et il rappelle la clause de conscience, la liberté de conscience, qui est en fait à la base de tout. C'est-à-dire que la conscience et la religion, il n'y a pas de religion sans conscience. La conscience, c'est notre capacité à faire des choix, à juger ce qui est bon, ce qui est mal, et à agir en conséquence. La conscience, c'est la condition de la liberté et de la responsabilité. Si vous n'êtes pas libre de suivre vos convictions, si vous n'avez pas la liberté de conscience, vous ne pouvez pas être libre ni responsable. Et ensuite, tout le reste en découle. Et donc, si l'État veut vous obliger à faire des choses qui sont gravement contre ce que votre conscience vous prescrit, le bien ou le mal, eh bien, dans ce cas-là, vous n'êtes plus libre. Et l'État se remplace votre conscience. Il y a toujours eu une guerre, pour le dire très clairement, entre une opposition, entre ceux qui veulent écraser la conscience, qui veulent imposer une pensée unique, et l'Église qui, en face, a toujours défendu la liberté de conscience pour préserver cette liberté humaine, cette capacité à voir le bien et à le faire. Et c'est vraiment dans la grande tradition de l'Église que ce discours du pape Léon XIV, on peut remonter aux années 20, aux années 30, le pape disait la même chose à l'époque, dans un autre contexte, mais sur les mêmes sujets.
Merci beaucoup. Alors, sœur Agnès, justement, le pape emploie les mots de discrimination, discrimination religieuse, en Europe et en Amérique, précise-t-il, lorsque les chrétiens ne peuvent plus annoncer les vérités évangéliques, lorsqu'ils défendent les plus faibles. Est-ce que vous, vous vous sentez dans ce cas précis, parce que vous avez les Petites Sœurs des Pauvres et d'autres communautés religieuses ont signé une tribune dans le Figaro ces derniers mois, dans laquelle vous pointez une menace extrêmement dangereuse pour les établissements catholiques, et je cite juste une phrase, et puis vous allez nous expliquer. Il est inconcevable, disiez-vous, de participer à l'euthanasie des personnes qui nous sont confiées ou de les assister dans leur suicide. Là, vous pensez qu'on est en train de franchir une ligne rouge ?
En tous les cas, nous ne la franchirons pas. C'est déjà clairement ça. Ce n'est pas possible au nom d'une liberté religieuse, au nom de nos convictions. Nos maisons, mais les sœurs avec qui j'étais ces derniers jours, ça fait 4 siècles pour les sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve, ça fait 1 siècle pour les petites sœurs de maternité catholique. Nous, ça va faire 2 siècles dans pas longtemps. On est au service. On est au service des plus pauvres, on est au service de la vie jusqu'au bout. Pas en se lavant les mains en disant « vous souffrez, c'est bien heureux ». Non, pas du tout, au contraire. Comment soulager, comment accompagner, comment mettre le résident au centre et l'écouter, cela dès son entrée à l'établissement. Hein. Et en les aimant, on parle de famille, on parle de la famille des petites sœurs des pauvres, d'une maison familiale. Bon, on remplacera jamais une famille, mais voilà, permettre aux résidents de pouvoir s'exprimer, de pouvoir faire... Tout cela fait que il est impossible pour nous de dire qu'à un moment, on va participer à un acte de mort sur un résident. On se met en quatre et on va mettre les équipes devant une proposition et un désir, parce que c'est leur désir de soigner, d'une qualité de soins de plus en plus grande, jusqu'à peut-être quelque chose qui s'appelle l'excellence. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on vise, pour que la demande de mort n'arrive pas. La demande d'être tué, j'y précise. Parce qu'en fait, vieillir, c'est quand même pas simple. Faut rester un peu les pieds sur terre.
Faut être réaliste, bien sûr.
Vieillir, c'est pas simple. Vieillir, ça peut être éprouvant. Ça peut être même des moments où on se dit « Oh Seigneur !» Ou même, vous mettez pas « Seigneur !» Mais j'aimerais tellement mourir, quoi. Pas tant « Tuez-moi !» Mais j'ai vécu, quoi. J'ai fini. Là, maintenant, ça devient lourd. Une centenaire me disait « Vous savez, c'est lourd, 100 ans, il faut aller le chercher, le souffle, bien loin, là, pour... hein » Et ça, je crois qu'on peut l'entendre, mais c'est des paroles qui permettent de s'approcher de la mort et de la préparer. Ça se prépare, on se prépare à mourir, ça se fait pas tout seul. Voilà. À l'inverse, d'autres personnes peuvent nous dire « je n'en peux plus parce qu'il y a quelque chose qui est en train de les envahir. Il y a une souffrance qui les envahit, il y a un sentiment de solitude qui les envahit, il y a... Alors, c'est peut-être moins dans nos maisons, mais un sentiment d'isolement social, l'impossibilité d'avoir des aides, c'est des souffrances qui sont intolérables. Mais la mort n'est pas la solution.
Là, quel est le risque, pardon de vous couper, mais quel est le risque avec ce projet de loi ? On parle de perdre des financements publics, c'est 50% de votre financement, voire d'aller en prison. C'est un risque réel que vous craignez ?
Moi, j'ai envie de dire, je ne sais pas ce que ça sera. Je ne sais pas ce que ça sera. On peut aussi faire un peu confiance aux personnes qui nous entourent. Est-ce qu'ils ont envie de voir des maisons fermées ? Le système de santé n'est quand même pas si...
Des milliers de lits que vous représentez, voilà, ces congrégations religieuses.
Parce qu'il
n'y
a pas que les petites sœurs. Hein. Le système de santé n'est quand même pas en très bonne santé. Hein. J'ai beaucoup de mal à dire. C'est sûr, on perd enfin fermé. On est responsable de beaucoup de personnes âgées. Et des personnes en précarité, des personnes en fin de vie. Donc, on n'a pas envie de partir. Mais une fois de plus, nous ne franchirons pas la ligne de faire pratiquer chez nous l'euthanasie. Donc, quelle que soit la réaction qu'il y aura en face, je pense que la congrégation avisera au fur et à mesure et essaiera de trouver des personnes qui seront prêtes à les défendre et à permettre que ça continue, que notre œuvre puisse continuer pour la vie. Mais nous, il est clair par contre que nous ne pratiquerons pas et nous ne ferons pas pratiquer l'euthanasie chez nous. Donc ce n'est pas des personnes extérieures qui...
C'est une ligne rouge à ne pas franchir.
Voilà.
Grégoire Pupin, comment ça se passe à l'étranger? Je rappelle que vous avez été le coordinateur de cette tribune en Belgique et au Canada, qui sont les pays qui ont légalisé l'euthanasie, parce que les évêques de France, donc dans leur communiqué publié jeudi, qualifient le texte examiné au Sénat du plus parmi les plus permissifs au monde.
C'est à la fois parmi les plus permissifs parce que les conditions d'accès à l'euthanasie sont très très larges. Et encore une fois, c'est pas que pour les personnes âgées. C'est pour toute personne en fait qui est malade, voilà, donc ça peut être à 30 ans. Pour l'instant, on dit à partir de 18 ans, mais certains veulent remonter beaucoup plus tôt. Donc permissif dans le sens où c'est très large, il n'y a pas de protection judiciaire. C'est extrêmement rapide. Ça peut se faire en quelques jours, moins d'une semaine. Et incroyable, les proches ne sont pas nécessairement informés. Donc vous avez une personne qui rentre à l'hôpital, si elle exprime plus ou moins à l'oral, même pas de trace écrite, le désir de mourir, ou en tout cas si c'est ce que le médecin comprend, il peut le faire. Pas de recours au juge. Le seul recours au juge possible, c'est dans l'hypothèse où le médecin refuserait. Dans ce cas-là, seulement le demandeur de la mort pourrait poursuivre le juge. Les proches ne sont pas informés. Et si les proches étaient informés et voulaient soutenir, aider, encourager, dissuader, accompagner la personne, ils peuvent être poursuivis pour délit d'entrave, un délit pénal, sanctionné de 2 ans de prison et de 30 000 euros d'amende. Donc si la famille vient, eh bien, vous pouvez avoir dans ces établissements, et c'est déjà le cas, des associations, des organisations qui promeuvent l'euthanasie, qui sont membres des conseils de ces établissements, et qui peuvent vous dénoncer. C'est dans la loi, telle que votée par l'Assemblée nationale, de donner le pouvoir à ces associations de poursuivre en justice toute personne qui essaierait de dissuader quelqu'un de demander l'euthanasie ou de l'obtenir. Et la loi prévoit aussi, et c'est là où c'est l'une des lois, même la loi la plus répressive au monde, c'est la loi prévoit aussi l'obligation, en plus, pour tout établissement, d'accueillir en son sein cette pratique. Ça veut dire que les religieuses qui tiennent ces maisons de retraite ont, en vertu du texte adopté par le Parlement, l'obligation d'accueillir l'euthanasie en leur sein, sur leur résident, les personnes qu'elles gardent, qu'elles protègent, qu'elles accompagnent parfois depuis des années. Et si elles ne le font pas, elles se rendent coupables de délit d'entrave. Ça veut dire que si le texte est voté en l'état tel que l'Assemblée l'a adopté, eh bien demain, on peut voir des religieuses poursuivies en justice par des associations militantes et condamnées jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende parce qu'elles auront voulu simplement protéger la vie et la fin de vie de leur résident.
Alors on va écoutez à nouveau le pape Léon XIV, parce que se pose aussi une question sur la liberté d'expression, sur ces sujets, ces enjeux graves qui concernent l'humain. Le baromètre du journal La Croix signalait d'ailleurs que le débat sur la fin de vie, finalement, les Français étaient un peu en attente de davantage. 48% jugeaient insuffisant le traitement des débats et des discussions sur la loi fin de vie. Non seulement donc on n'en parle pas énormément, pas assez selon les Français, mais en plus il y a aussi des menaces sur la liberté d'expression. Et c'est ce que pointait Léon XIV, on l'écoute et puis on entendra les réactions de nos invités.
Il est douloureux de constater en revanche que surtout en Occident, les espaces de liberté d'expression se réduisent de plus en plus, tandis que se développe un nouveau langage à la saveur orwellienne qui, dans sa tentative d'être toujours plus inclusif, finit par exclure ceux qui ne se conforment pas aux idéologies qui l'animent.
Voilà, un langage donc orwellien, selon les mots de Léon XIV, du nom de George Orwell, l'auteur de 1984, qui décrivait un régime totalitaire où on fait dire aux mots l'inverse de leur sens. Docteur Bourgeois, justement, quand on parle de ce débat sur la fin de vie, on entend « aide active à mourir », on entend « mourir dans la dignité ». De quoi parle-t-on, selon vous ?
On parle clairement d'euthanasie. Et en fait, le mot « dignité » est repris, et effectivement, comme le dit le pape Léon XIV, c'est toujours les mots qui sont réutilisés, banalisés. En fait, tout être humain est digne, toute vie est digne d'être accompagnée. Et là, on nous parle d'aide à mourir. Nous, autant que les petites sœurs, nous sommes là pour aider nos patients, nos résidents, jusqu'à leur fin de vie et vers effectivement la mort, mais en aucun cas à pousser vers la mort et à faire ce genre d'acte. On parle d'euthanasie alors qu'on utilise des mots cachés pour faire passer la pilule, en fait.
Alors le pape Léon XIV a aussi légitimé en quelque sorte l'objection de conscience dans ces cas-là. C'est le cas pour les médecins, vous en faites partie. Le problème qui se pose actuellement, c'est que plus largement, les établissements catholiques qui refuseraient d'appliquer donc effectivement ces dispositions de la loi se mettraient donc hors la loi.
Oui, et c'est tout comme dans l'IVG, on a une objection de conscience personnelle, mais en même temps, on est dans l'obligation de pouvoir apporter une solution qui irait justement dans le sens soit de l'IVG, soit là de l'euthanasie aux patients. Et en fait, en tant que chrétien et en tant que médecin, on ne veut pas participer, même en faisant ça. Et si les établissements ne peuvent pas avoir cette objection également, ils seront obligés d'accueillir en leur sein éventuellement des médecins extérieurs qui viendraient faire uniquement cet acte. Qu'est-ce que ça veut dire ? On va avoir des brigades de morts qui se déplacent d'établissement en établissement ? Voilà, c'est complètement inconcevable.
Sœur Agnès.
Oui, je continue là-dessus. La demande de mourir, la demande d'euthanasie, c'est juste pas possible de le faire dans un établissement. C'est pas un droit particulier qui s'appliquerait à quelqu'un. Ça implique toute une maison. Chez nous, on s'appelle ma maison. D'accord? Quand on rentre à ma maison, c'est généralement, même si ça peut être plus court, mais pour plusieurs mois, voire pour plusieurs années, il s'instaure un climat de confiance, un climat d'accompagnement, un climat d'amour, de tendresse, hein, où les résidents...
On est en famille, en quelque sorte.
Où les résidents, même entre eux, s'entraident, où les collaborateurs participent et se mettent en quatre pour aider quelqu'un à trouver sa place, à trouver... Ils rendent le personnage heureux, c'est notre grand mot chez les petites sœurs, mais c'est vraiment une réalité. Et comment vous voulez qu'à un moment, parce qu'il y a quelque chose de difficile qui arrive? Et ça arrive, hein. Une fois de plus, c'est des choses qui arrivent. Mais la solution n'est pas de dire, vous inquiétez pas, on a une solution. Hein, non, on continue à se mettre en quatre pour trouver une solution. Nos gestes de soignants, au sens très large du terme, ne peuvent pas être des gestes porteurs de mort, c'est des gestes porteurs de vie, c'est évident. Hein, c'est vraiment évident. Et faire rentrer ce type de pratique dans un établissement, c'est casser l'établissement. On dit les murs n'ont pas de conscience, mais la vie, la maison, ma maison, c'est plus ma maison si je fais un jour rentrer la mort comme ça, cette pratique de la mort dans la maison.
On va poursuivre bien sûr cette réflexion. Juste avant, peut-être Grégoire Pupin, un point sur les rencontres que vous avez pu avoir avec les religieuses et les sénateurs. Est-ce qu'il y a une issue à ce point particulier de la situation des établissements catholiques ?
Alors écoutez, le texte est au Sénat. Il sera voté, les amendements seront votés cette semaine, donc mardi ou mercredi. Et il y a plusieurs amendements qui ont été déposés donc suite à notre rencontre, hein, pour garantir la liberté de conscience des maisons d'établissement. Il faut bien préciser qu'on ne demande pas une exception. On demande juste l'application du droit. C'est-à-dire que la liberté de conscience, la liberté de religion, c'est une liberté qui existe, qui est reconnue en droit français, en droit international, en droit européen, dans les droits de l'homme. Donc c'est garanti. Pour l'instant, le texte tel que voté par l'Assemblée est en violation de ce droit. Et donc on demande simplement le respect de leurs droits et non pas une exception. Et alors ça a été entendu par un certain nombre de sénateurs qui ont déposé des amendements. Il y en a au moins 4 ou 5 qui vont dans ce sens, qui ont été déposés. On espère qu'ils seront adoptés. Le but, bien sûr, c'est qu'ils soient adoptés par le Sénat pour que le texte, qui sera ou non ensuite voté le 27 janvier, qui arrivera à l'Assemblée, contienne cette disposition et qu'elle y reste. Donc voilà, on demande simplement le respect du droit tel qu'il existe pour ces établissements.
On se posera la question juste après la pub où on se retrouvera, notamment la question de la compassion, parce qu'elle est au centre aussi de cette question de comment aborder la souffrance et surtout comment est-ce que les chrétiens, les soignants chrétiens accompagnent ces personnes qui en sont là. On se retrouve dans un instant, vous restez avec nous.
En quête d'esprit,
CNews Europe 1. Daniel Balavoine.
Ce que je peux vous dire, c'est que la jeunesse se désespère.
Une voix, une liberté.
Un destin extraordinaire.
Il était déjà le modèle d'une manière de vivre et d'une manière de chanter qui était très particulière.
Avec Europe 1, découvrez la vie hors norme de Daniel Balavoine.
Avec un témoignage inédit de son frère Guy et les archives exceptionnelles de la radio.
Je le ressens comme la possibilité de pouvoir continuer à faire ce que j'aime, dans la bonne humeur.
Destins extraordinaires, Daniel Balavoine, raconté par Omblin Roche.
Un podcast à écouter dès maintenant sur le site et l'application Europe 1.
On peut penser qu'un influenceur va nous aider à choisir notre voiture. Ou on peut faire confiance à plus de 900 000 conducteurs de Dacia Sandero en France. Voiture la plus vendue aux particuliers, découvrez-la à partir de 13 290 euros pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier. Disponible avec moteur, essence plus GPL boîte auto.
Offre réservée aux particuliers, valable du 1er au 31 janvier pour Dacia Sandero Essential SE 65,9 hors option selon le tarif 2229,02 du 8 janvier 2026. Conditions sur Dacia.fr, source 3A data novembre 2025. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Europe 1.
Écoutez, c'est la grande famille d'Europe 1.
J'écoute Europe 1, je suis un fidèle auditeur. Je dis ça depuis ma tendre enfance en fait.
C'est le plaisir pour moi de vous parler, moi qui vous suis tous les jours.
Je vous écoute hein, tous les jours, c'est de la bonne humeur. Je ris en voiture en vous écoutant quand je rentre du travail. Et j'ai vraiment passé un bon moment.
Soyez solidaires les uns des autres. Aidez-vous toujours dans la vie.
Europe 1.
Ouais, c'est un plaisir de vous avoir et vraiment ça fait chaud au cœur.
La radio libre.
13h, 14h. CNews, Europe 1, Enquête d'esprit. Émeric Pourbet.
De retour dans Enquête d'esprit sur CNews et Europe 1, en partenariat avec France catholique. Nous parlons de la question de la fin de vie et de l'approche chrétienne aussi. Quelle espérance apportent les chrétiens alors que, effectivement, des projets de loi en France et dans d'autres pays veulent promouvoir une mort administrée. On est avec la sœur Agnès du Bon Pasteur, qui est religieuse des Petites Sœurs des Pauvres. On est avec Grégoire Pupin, le directeur du Centre européen pour le droit et la justice, avec le docteur Geneviève Bourgeois, médecin gériatre et porte-parole de la Marche pour la vie qui a lieu ce dimanche. Et puis, bien sûr, Véronique Jacquier est avec nous. Juste un mot sur un sondage qui est paru récemment, qui montre que les Français ne sont pas aussi favorables à, effectivement, au suicide assisté ou à l'euthanasie, qu'on veut bien le dire, puisque selon un sondage Fondapol, qui avait été publié avant Noël avec les associations familiales catholiques, eh bien, les Français n'approuvent pas, en tout cas, les dispositions telles qu'elles sont énoncées dans ce projet de loi, et ça traverse d'ailleurs l'ensemble des partis politiques. Donc ce n'est pas une question non plus de droite et de gauche. On va se rendre dans un instant à Angers pour voir justement comment est-ce que les établissements catholiques, il y en a de nombreux, il y a les Petites Sœurs des Pauvres, mais il y a aussi les Servantes des Pauvres, comment est-ce que la prière et le service des pauvres vont de pair pour affronter la souffrance. Et on parlera justement juste après de cette question de la souffrance qui est évidemment névralgique.
Tous les matins sur son vélo, Sœur Marie-Madeleine fait le tour des pauvres et des malades du quartier.
Bonjour, c'est la sœur.
Médecin de formation, elle est entrée chez les servantes des pauvres il y a 10 ans.
C'est ce que dit le Christ dans l'Évangile, c'est que ce que vous avez fait à l'un des plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc nous, c'est vraiment, effectivement, quand on va chez les pauvres, on essaye de voir en eux le Christ. Enfin voilà, on sait que derrière eux, c'est le Christ qu'on soigne. Et en même temps, le Christ, c'est aussi notre modèle. C'est-à-dire que nous, en allant chez les pauvres, c'est aussi le Christ qu'on leur amène.
Ça va, pas trop chaud, si, ça va ?
Comme chez Monsieur Hérault et sa femme, après les soins, Sœur Marie-Madeleine prie avec le couple.
Et le Fils et le Saint-Esprit, Amen. Que Saint Béni soit protège, nos moissons, que Saint Béni protège, nos héros.
Fin de la tournée vers midi, l'heure du retour à la congrégation, direction la chapelle pour le chapelet avec la communauté.
Et cette vie de prière que nous avons, qui est une vie liturgique intense et une vie de prière personnelle qui est forte aussi, elle est vraiment au service de notre mission auprès des pauvres. On va aller puiser auprès du Seigneur dans la prière la force de le rechercher aussi dans la face souffrante de ces pauvres. Et tout ça va être unifié dans un seul et même amour.
Fondée en 1872, les sœurs servent gratuitement les pauvres depuis plus de 150 ans, avec douceur et avec le Christ.
Le Seigneur n'est pas venu éliminer la souffrance, il est venu l'illuminer par sa présence. Pour les personnes qui croient en Dieu, en unissant leur souffrance aux souffrances de Jésus sur la croix, ils vont pouvoir trouver une force extraordinaire et un chemin aussi de relèvement et de maturité. En vivant l'épreuve aux côtés de Jésus, Ils vont pouvoir se relever humainement et grandir en fait en profondeur dans leur âme.
Les servantes des pauvres sont aujourd'hui une centaine réparties dans 9 communautés en France et 2 en Afrique, au Rwanda et au Sénégal.
Docteur Bourgeois, cette question de la souffrance, elle est au cœur du sujet de la fin de vie, bien sûr. Vous êtes médecin, je le rappelle, donc vous êtes effectivement confronté à cette question. Et c'est vrai qu'on reproche parfois aux catholiques de vouloir laisser les personnes souffrir parce qu'ils ne veulent pas abréger la vie. Comment réagissez-vous ?
Alors, c'est évidemment pas notre cas. En tant que médecin et médecin chrétien, effectivement, notre but quand on accompagne des patients, et en particulier des patients en soins palliatifs, c'est vraiment de soulager la souffrance et de soulager toutes les souffrances, parce qu'il n'y a pas que la souffrance physique, il y a la souffrance morale, la souffrance spirituelle, et tout ça, nous pouvons l'accompagner. Et nous avons actuellement dans le monde un panel de thérapeutiques sur la douleur, sur l'anxiété, extrêmement maniable, extrêmement efficace. Donc nous avons les moyens de pouvoir soulager correctement si on s'en donne le temps et si on en prend les moyens humains. Et l'accompagnement humain, il est là. Et la sœur parlait de l'excellence du soin. Effectivement, c'est notre but est vraiment là. Et il y a deux bras indissociables dans les soins palliatifs, et en particulier quand on a cette vocation chrétienne du soin, c'est l'excellence du soin, et on va mettre au mieux toutes nos compétences, mais aussi l'accompagnement humain, et permettre cet accompagnement humain quand on soulage, soulager vraiment au niveau de la douleur pour effectivement ne pas entraver ni la vie, ni la conscience, pour pouvoir permettre cet accompagnement humain qui va se faire à côté par la famille et par les soignants qui sont là.
Sœur Agnès, vous êtes également médecin, hein, je le précise. Que faire dans des situations de vie qui deviennent ou qui apparaissent comme invivables par le patient lui-même, parce qu'il y a des souffrances qui sont réfractaires également?
Oui, je vais commencer avant. Pour moi, l'idéal, et ce qu'on veut viser, c'est de l'anticiper. C'est de l'anticiper. C'est pas d'attendre que ça devienne insupportable. Alors, faisons au maximum de l'anticiper. Et c'est ça que je parlais à ma maison. On est sur terre parce qu'un Dieu est tout amour, nous donne la vie. La vie, elle est donnée. Et la vie, elle est reçue. La vie, elle est don. Et ça, ça se passe parce que c'est l'amour. Donc, cet amour dans notre proximité avec les personnes âgées que nous accueillons. Alors là, c'est clairement notre place de petite sœur. C'est vraiment le sens de notre présence auprès d'eux, mais ça se partage avec les collaborateurs et ça se sent très fort. Voilà. Et donc du coup, on est à l'écoute. Donc du coup, on veut entendre ce qu'ils disent et on veut en prendre compte. Donc ça, c'est déjà très très important parce que une personne reconnue, une personne aimée, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Donc ça, on anticipe déjà beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup. Et ensuite. Ensuite, on a des équipes pluridisciplinaires au sein de nos maisons. On a, quand c'est possible, et la première loi qui est en, nous l'oublions pas, sur les soins palliatifs, elle va aussi être votée, celle-là, j'espère, sans problème. J'espère surtout qu'on aura des sous derrière, qu'on aura donc un budget, mais voilà. Et ça sera pas suffisant. Mais, il faut que la médecine tout entière devienne palliative, enfin, en tout cas, dans l'esprit palliatif, d'écouter.
Ne soit pas réservé au service, voilà, des soins palliatifs en tant que tel.
Il y a besoin de gens spécialisés pour avoir ce regard extérieur qui vient nous conforter, qui vient nous aider. Mais il faut que tous nous soyons dans cet esprit palliatif. Et là, avec nos équipes qui sont déjà dans les maisons, qu'il faut continuer à former pour augmenter, pour avancer toujours, toujours, toujours, toujours, on devrait normalement au maximum soulager.
Grégoire Pupin, vous avez fait l'expérience, justement, vous avez eu une tumeur cérébrale et cette expérience de la proximité de la mort. Qu'est-ce qui vous a aidé à tenir particulièrement dans ce cas précis?
Alors, en fait, c'était une expérience, grâce à Dieu, j'ai la médecine, je suis là et tout va bien. Mais c'est une expérience finalement que je ne regrette pas. Parce qu'évidemment, elle change la vie, elle change totalement votre vie, elle donne une intensité à l'existence extraordinaire. Grâce à Dieu, tout va bien. Mais quand même, effectivement, la famille, mon épouse, le travail, font que voilà, vous tenez. Mais j'imagine, moi, plutôt quand on est à Paris, maintenant ici, voyez-vous, je suis choqué de voir les gens dans la rue, qui dorment la nuit par terre. Et ces gens-là, quand on dévisse vite... Et si vous tenez dans l'existence, en partie grâce à la médecine, et que la loi vous dit, cher monsieur, vous pouvez arrêter la médecine, les médicaments, on a le droit d'arrêter les médicaments. Si vous perdez votre boulot, vous perdez votre épouse, votre famille, vous vous retrouvez à la rue, et que la loi vous dit, mais monsieur, la porte est là. C'est ça, ce qu'on prépare. C'est pas que pour les personnes âgées. C'est pour les pauvres. Les gens qui sont seuls. Les gens qui sont dépressifs. Au Canada, on a proposé l'euthanasie à un pauvre. Parce qu'il n'avait rien d'autre. On a une solution pour vous. Prenez donc la sortie. Et donc, tenir, effectivement, c'est... il faut bien voir, c'est le rapport à la vie, en fait. C'est que la vie ne nous appartient pas complètement, elle nous dépasse, et seul, on ne peut rien. Et donc évidemment, ce que font les sœurs, c'est un immense luxe, c'est une richesse extraordinaire. Et dans le monde matériel dans lequel on vit, la générosité, la charité n'a pas de prix. Et donc, évidemment...
Mais elle a un coût, quand même.
Elle a un coût, mais les sœurs sont... Vous êtes bénévole, ma sœur.
Si nous quittons nos maisons, il faut double personnel. Hein.
Mais oui. Et ce qu'on peut craindre, en fait, c'est qu'avec cette loi, ce que l'on voit, c'est que les soins palliatifs, ça coûte cher. Moi, ce que je pense, c'est que ce vers quoi nous allons, c'est pas uniquement l'euthanasie pour les personnes mourantes. Le texte est beaucoup plus large que ça. C'est beaucoup plus large. C'est un autre rapport à la vie. C'est dire, voilà, il y a une porte de sortie en cas de problème. Deuxio, euthanasie pour la masse. Ça veut dire, vous êtes traité pendant votre vivant déjà un peu comme un numéro, et ce sera pareil à la fin de votre vie. Et le soin palliatif, ce sera réservé pour les personnes qui ont les moyens d'anticiper et de payer.
Véronique Jacquet.
Ça veut dire qu'on retourne à un monde où c'est la loi du plus fort qui prime, la loi du plus riche qui prime, un monde qui est finalement complètement déshumanisé, hein, quand je vous écoute. Mais vous avez parlé d'une approche chrétienne du soin. Quelle est donc l'approche chrétienne de la mort ? Pour ceux en plus qui sont loin de l'Église, comment comprendre cela, sœur Agnès ?
C'est une immense espérance. Mais je vais prendre une image. Pour moi, la vie est une ascension. La mort n'est pas une dégringolade dans un gouffre. La mort est une arrivée au sommet d'une montagne. Et la vie, vous pouvez décliner tous les âges de la vie avec la facilité au début, ça monte de plus en plus. Et puis la fin de vie, on est dans les rochers de la fin d'escalade. C'est éprouvant, c'est rude, j'aime bien dire ce mot-là. Et on n'y arrive pas forcément tout seul, il faut des fois s'encorder. Et merci aux soignants qui sont dans ces moments-là, parce que c'est des soignants un peu de l'extrême, là, hein, dans des conditions de soins qui sont pas faciles, hein, qui sont parfois obligés de s'encorder. Mais on est dans ces rochers, donc c'est dur. Mais on est en haut, et on arrive en haut. Et c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue. Je pense que c'est vraiment ça qu'il ne faut pas perdre de vue. On arrive en haut. Vous mettez ce que vous voulez en haut, mais on arrive en haut. Et ça change tout, il me semble.
Alors, pour rebondir justement sur cette ascension, hein, on va retrouver une autre communauté religieuse qui, là aussi, accompagne des religieuses, cette fois, âgées ou malades. Ça se passe à Farmoutier, en Seine-et-Marne, une communauté bénédictine avec un EHPAD et qui prépare au mieux, justement, ce passage vers l'au-delà. Regardez, c'est signé Éloi Rochebrune.
C'est un lieu qui n'est pas comme les autres. 100% abbaye, 100% EHPAD. 27 moniales vivent ici. Pour la plupart âgées, malades pour certaines, blessées par la vie pour d'autres. Mère Maïlis est prieure de la communauté.
Il y a vraiment une alliance entre soins et spiritualité. Le soignant va accompagner le corps, le médecin psychiatre ou le psychologue va accompagner l'âme psychique, et l'Église et la communauté vont prendre soin de l'esprit. Et justement, en travaillant à cette dimension de réconciliation, de conversion intérieure qui nous prépare à l'entrée dans le royaume.
Les médecins, aides-soignantes et psychologues font donc équipe avec les sœurs, notamment au moment de la fin de vie. Coralie est infirmière.
Il y a autant de place pour les sœurs qui vont prier avec la sœur qui est en train de partir que pour les soignants qui viennent faire des soins de confort, des soins de bien-être ou des soins de nursing.
Des soins qui permettent aux sœurs de toujours répondre à leur vocation bénédictine. Le travail est adapté aux capacités de chacune. Travail et prière. Les sœurs suivent les offices et ont la messe quotidienne. Sœur Marie-Gabrielle vit dans la communauté depuis 2020.
J'étais dans une congrégation apostolique avant. Et c'était la spiritualité du Verbe incarné, de la crèche à la croix et à la résurrection quand même. Alors c'est tout un trajet que je garde au cœur parce que je me dis, c'est ce chemin que je suis appelée à vivre ici et maintenant. Et dans le silence... La prière.
Un parcours vers le Seigneur, l'abbaye Notre-Dame de Farmoutier est la dernière étape.
Docteur Geneviève Bourgeois, cette alliance entre soins et spiritualité, vous l'expérimentez justement pour faire face à cette ascension dont parlait la sœur Agnès juste avant le reportage, hein, qui est la fin de vie.
Oui, tout à fait. Et je crois qu'on peut dire que, qu'on soit religieux ou pas, il y a un moment spirituel dans la fin de vie. Alors, on peut l'appeler comme on veut, mais il y a cette recherche de sens de la vie, un regard, une relecture sur la vie qu'on a vécue. Et ça, ça s'accompagne. Et effectivement, ça ne se fait pas forcément tout seul. L'accompagnement humain, que ce soit des soignants ou des familles ou des bénévoles, parce qu'ils sont importants aussi, permet de faire ce cheminement et de pouvoir partir sereinement. Et en fait, quand on anticipe tout ça, déjà, quand on prend la douleur très précocement et qu'on la soigne très précocement, qu'on la soulage, on évite effectivement d'aller vers ces situations dramatiques,
inextricables.
Si on fait le traitement de la douleur très précoce et l'accompagnement spirituel et humain qui va avec pour que la personne puisse être sereine dans les soins, puisse avoir un certain lâcher prise et pouvoir vivre les soins beaucoup mieux, beaucoup plus sereinement.
Sœur Agnès, on entendait dans ce reportage l'espérance de la résurrection. Est-ce que finalement c'est ça qui motive votre action, l'action des chrétiens dans leur ensemble, dans ce moment particulier qu'est la fin de vie? C'est l'espérance de la résurrection, parce que si tout ne s'arrête pas au moment de la mort, eh bien voilà, il faut vraiment aller jusqu'au bout de ce qu'on peut faire et donner à ces personnes.
C'est clairement ce qui nous anime dès le départ, dès l'accueil, et qui se poursuit. C'est accueillir cette personne est au nom de Dieu qui est amour, et c'est l'amener, c'est le sommet de notre vocation. Hein. Pour nous, ce qui se fait dès l'accueil, c'est pour l'accompagner jusqu'au terme naturel de sa vie sur terre, mais c'est pour le confier, et on est convaincu de cela, à celui qui est tout amour et qui va les accueillir. Voilà. Donc c'est une continuité de l'amour. C'est forcément une résurrection. C'est forcément, comme disait la sœur c'était très beau, et on est pleinement en phase avec ça, avec les servantes des pauvres. On amène Jésus et on soigne Jésus. Et Jésus n'est là que pour accueillir, que pour relever, n'est là que pour donner vie, et jusqu'au bout.
C'est le vrai sens de la compassion, parce qu'on parlait effectivement des mots qui sont un peu... on change leur sens. Là, en l'occurrence, cette compassion, vous l'originez, si je puis dire, dans le Christ.
C'est lui qui, pour nous, est à la source de tout. C'est pas forcément quelque chose qu'on dira, souffrez avec le Christ. Non, c'est pas un discours qu'on dit. Ça, c'est des expériences personnelles. Mais notre témoignage et notre proximité, notre tendresse auprès des personnes dit cela. Et doit dire cela, et ça jusqu'au bout. Et après, le Seigneur se fait le chemin avec eux.
Véronique Jacquet, puis Grégoire Pupin, et le docteur.
Oui, sœur Agnès, vous qui avez été témoin du grand passage, hein, pour beaucoup de personnes, et tout le monde redoute ce grand passage. Quel témoignage vous pouvez offrir justement de ce qui se passe à ce moment-là? Parce que vous nous parlez de ce que vous offrez, mais qu'est-ce que la personne qui va mourir a à offrir, et comment on peut l'accompagner dans ce moment crucial?
Alors déjà, je me permettrai de dire, moi, je reste très humble. Je ne sais pas ce que c'est que mourir. Moi, je ne sais pas ce que c'est que mourir. Je ne l'ai jamais vécu. Je ne sais pas ce que c'est. Hein, je crois qu'il faut qu'on reste très humble, là. Quand j'ai dit, on arrive au sommet de la montagne, je ne suis jamais montée au sommet.
Alors que, pardon de vous couper, mais parfois, effectivement, la médecine occidentale, notamment, est un peu dans la toute-puissance, quand même, par rapport à cette question.
Là, avec cette loi, on est dans la toute-puissance. Je choisis l'heure de ma mort et ma manière de mourir. Voilà. Moi, je ne sais pas. Hein. Et à chaque fois... À chaque fois, c'est vrai qu'on est par vocation proche de ces personnes, et c'est une honneur pour nous. Les personnes âgées nous font cette grâce de vous permettre de rester auprès d'eux. On est là, mais on est là. Et c'est tout ce que je peux dire, c'est différent à chaque fois.
Et c'est ça qui fait la différence.
C'est toute une vie, c'est toute une personne, c'est différent à chaque fois. Ce qui m'importe, moi, en tant que petite sœur, en tant que médecin, c'est que la personne soit... soulagé, soit apaisé. Des fois, c'est compliqué. Voilà. Mais notre présence, je pense, est très importante. Voilà. Et la présence de la famille, quand il y en a. La présence des voisins, des résidents voisins, des amis qu'ils peuvent avoir dans la maison, de bénévoles, c'est très important. Voilà. Mais après, je suis devant un mystère qui ne m'appartient pas, et sur lequel je n'ai pas pouvoir. Et ça, je suis très humble devant la mort. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est des moments où on aime bien dire, le Seigneur passe. Et le Seigneur n'est jamais aussi proche pardon, il y a l'Eucharistie, bien sûr, mais le Seigneur n'est jamais aussi proche que ces moments-là. Et ça, ça on, par contre, c'est une réalité. C'est une réalité. Et c'est une grande grâce que de vivre ce
Merci d'en témoigner.
Grâce à eux.
Grâce Merci à beaucoup.
Eux. C'est grâce aux résidents.
Docteur Bourgeois, vous souhaitiez ajouter
oui,
ce témoignage
dans ce passage, effectivement, on peut voir, et c'est effectivement une grâce de pouvoir être là quand on arrive, et la plupart des situations, on y arrive à faire que la personne puisse partir sereinement. Et quand on est là à côté d'eux, à les accompagner dans ce moment-là, effectivement, ils nous ont beaucoup offert. Et il ne faut pas penser qu'un service de soins palliatifs ou un service comme le mien, qui est un service de gériatrie simple, hein, pas spécialisé dans les soins palliatifs, mais on accompagne forcément beaucoup en soins palliatifs. Ce ne sont pas des services tristes. Hein, les gens nous offrent beaucoup dans ces moments, dans ces passages, et à nous de les accompagner pour que ce soit le plus serein possible, pour que pour la famille aussi ce soit serein, parce que tout ce cheminement, en fait, il y a toute une temporalité dans ce moment de soins palliatifs, et il faut que la famille puisse se mettre dans la même temporalité que le patient et que l'équipe soignante, pour que tout le monde puisse cheminer ensemble. Et une fois qu'on arrive à ça, ça prend un petit peu de temps au début, mais une fois qu'on arrive à ça, on sent qu'on chemine ensemble et que là, on peut réellement accompagner. Et donc la personne, au moment du décès, quand elle est sereine et quand on peut être présent ou permettre à la famille d'être présente, c'est extrêmement gratifiant finalement de voir que peut-être on a pu un petit peu permettre cela et que ce moment serein, voilà, on le souhaite à tout le monde de pouvoir partir dans ces conditions.
Grégoire Pupin, je reviens à ce qu'on entendait dans le reportage tout à l'heure sur l'espérance de la résurrection. Vous avez écrit un petit ouvrage aux éditions de l'Homme Nouveau qui s'appelle « La famille, les droits de l'homme et la vie éternelle ». Est-ce que pour affronter cette question de la fin de vie, de l'euthanasie, les chrétiens peuvent se passer de réaffirmer la perspective de ce qu'on appelle les fins dernières, c'est-à-dire la vie éternelle, ce qui se passe après la mort ?
Ce serait d'une grande violence en fait que de s'opposer aux personnes qui redoutent la mort sans leur parler de la vie éternelle. On ne peut pas faire la moitié du chemin. C'est-à-dire que la question, c'est la vie éternelle. C'est l'annonce de la vie éternelle qui donne tout son sens. La vie n'est pas absurde, et la mort non plus. Comprendre que voilà, la vie, déjà notre vie maintenant, aujourd'hui, là, nous sommes déjà inscrits dans la trajectoire de la vie éternelle. Et donc notre vie n'est pas absurde, la mort non plus. Et ce que nous faisons maintenant a un sens, la façon dont nous le faisons. Alors évidemment, dans un monde extrêmement matérialiste, chacun joue son propre jeu, la concurrence, etc., l'égoïsme, la solitude, la vie nous paraît totalement absurde. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est par la générosité, par le don de soi, par la charité, notamment qu'expriment ces religieuses, qu'on renverse en fait cette absurdité. On montre, regardez, en fait, ce qui n'est pas absurde, on vous permet de voir la pleine dimension de notre humanité par le don. Par la générosité, par la charité, par l'offrande de soi gratuite. Et évidemment, bon. Et là, on montre à quel point notre vie n'est pas absurde, notre mort n'est pas absurde, notre accompagnement jusqu'à la fin n'est pas absurde. Alors que si on vit enfermé dans la matière, dans le matérialisme, dans l'individualisme, etc., évidemment que c'est atroce de finir seul dans un studio parisien, malade. C'est horrible. Personne ne veut ça. Et donc la vraie question, c'est de, et pour l'Église, c'est sa mission, mais c'est de, et on en a besoin, particulièrement en France et en Occident, c'est de reprendre conscience de la vie éternelle dans laquelle nous sommes déjà tous intégrés. Et cette vie éternelle, le caractère surnaturel, on le perçoit par la charité. Parce que la charité, c'est le seul acte humain qui soit vraiment surnaturel, puisqu'on va agir pour le bien des autres, malgré nous-mêmes. On se dépasse pour les autres, gratuitement, totalement. Et ça, c'est la seule chose qui soit pas absurde.
Sœur Agnès, une réaction, c'est ce que vous faites, effectivement,
oui, merci, M. Vingue, de témoigner comme cela. Mais juste, vous l'avez un petit peu dit, je voudrais juste réinsister, la vie éternelle, c'est déjà aujourd'hui. C'est pas une fois mort. Ça commence aujourd'hui, ça commence à notre baptême, ça commence quand on arrive en vie. Et voilà, tout ce qu'on peut vivre et faire vivre et partager au niveau des relations, et je reviens sur ces mots, sur l'amour, sur la tendresse, auprès des résidents, auprès des collaborateurs, et c'est partagé entre eux, c'est déjà des signes de vie éternelle. Et en fait, on ne fait qu'une ascension. Allez, reprenons le mot. Et c'est ça qui est beau et c'est ça qui a du sens.
Ça a une valeur infinie.
Voilà, on est déjà On y est déjà. Et c'est ça qu'il faut leur faire percevoir. Hein. Et c'est, voilà. Et ça, ça passe pas par que des discours, ça passe pas que par des soins, ça passe par un vivre avec, ça passe par, par tout ce qu'on peut partager ensemble, par tout ce qu'ils partagent entre eux. C'est extraordinaire de voir ce que même les résidents entre eux se donnent, se partagent. Et c'est ça qui fait que ma maison.
Et c'est tout l'enjeu finalement de ces discussions à travers un texte de loi, mais effectivement qui est difficilement résumable en une équation ou en des termes juridiques et que vous avez essayé de faire passer au cours de ces derniers jours auprès des sénateurs. Merci beaucoup à tous pour vos témoignages parce qu'effectivement c'est une question essentielle, hein, la fin de vie qui va nous concerner tous et de l'avoir fait avec vraiment des mots très humains et aussi avec votre approche spirituelle. Je rappelle donc Sœur Agnès du Bon Pasteur, religieuse chez les Petites Sœurs des Pauvres à Rennes, Grégoire Pupin, directeur du Centre Européen pour le Droit et la Justice, avec cette tribune qui est encore disponible sur Internet, qu'on peut retrouver sur ces communautés religieuses, mais aussi des juristes qui demandent que cette objection de conscience, ce droit à la conscience soit reconnu, cette liberté religieuse. Docteur Geneviève Bourgeois, médecin gériatre, porte-parole de la Marche pour la Vie, qui a lieu ce jour, ce dimanche, à 14h. Merci aussi, bien sûr, à Véronique Jacquier. Peut-être un mot, Véronique, d'ailleurs, pour conclure sur France Catholique.
Bien sûr, France Catholique, qui fait sa une sur le débat, sur ce dont nous avons parlé, mais qui vous propose aussi d'autres angles de réflexion pour bien comprendre l'enjeu, pour bien comprendre ce qui va se jouer au Sénat la semaine prochaine, et ce qui se joue d'ailleurs d'une façon anthropologique pour notre société. Coup de projecteur également sur le bel article du philosophe Frédéric Guillot, « Le Dieu de l'Ancien Testament est-il un Dieu terrible ?» Voilà, vous aurez beaucoup de choses à lire, et c'est sur abonnement et sur france-catholique.fr.
Merci beaucoup Véronique, et puis Grégoire Pupin, je signale aussi un livre à paraître chez Teki sur ces questions-là, avec votre approche, effectivement, cette profondeur qui vous caractérise. Merci à Aurélie Lucano, aux équipes techniques de CNews, et la semaine prochaine, eh bien, nous parlerons de la persécution des chrétiens à travers le monde, mais peut-être aussi, à moindre échelle évidemment, à moindre niveau, mais quand même, les actes anti-chrétiens en France, ça existe, et donc nous ferons un tour d'horizon, notamment à partir de l'enquête, le rapport réalisé par l'ONG Portes Ouvertes. Très bonne journée à tous et bien sûr, l'info continue sur Europe 1 et sur CNews.
En quête d'esprit, 13h-14h, CNews Europe 1.
Et dès demain sur Europe 1, Christine Kelly vous donne rendez-vous de 11h30 à 13h pour débattre en direct avec ses chroniqueurs et ses invités sur tous les sujets d'actualité. Christine Kelly et vous le savez, c'est du lundi au jeudi sur Europe 1 de 11h30 à 13h. Un seul numéro si vous souhaitez réagir à l'émission, 01 80 20 39 21. Tout de suite, vous retrouvez Alessandra Martinez pour l'éphéméride.
Chers amis, bonjour. Nous honorons aujourd'hui la mémoire de Sainte Prisca ou Sainte Prisque, mais on ne sait pas grand-chose à son sujet. Il pourrait s'agir de cette chrétienne citée par Saint Paul qui l'accueille à Corinthe avec Aquila, son époux. Elle est aussi connue sous le nom de Priscille. S'il s'agit bien d'elle, elle est aussi fêtée le 8 juillet avec son mari. Prisca pourrait être aussi une jeune fille baptisée à l'âge de 13 ans par Saint-Pierre et martyrisée sous l'empereur Claude en 54. Avant d'être décapitée, elle aurait été livrée à des lions qui auraient refusé de la dévorer, puis conduite sur un bûcher que personne ne réussit à enflammer. Ou encore, troisième version, Prisca serait une romaine du 3e siècle conduite devant les juges pour répandre de sa foi sous l'empereur Claude le Gothique. Le mystère demeure. Une certitude cependant, l'antique et superbe basilique qui lui est dédiée sur l'Aventino est signe de l'ancienneté de son culte et de sa très grande renommée dans l'Église primitive. Et voici pour finir un extrait du livre d'Isaïe qui est lu à la messe de ce jour. « J'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. » C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao.
Merci Alessandra et bon dimanche. Restez bien sur Europe 1, dans moins de 2 minutes, de 14h à 15h bien sûr. Vous connaissez votre rendez-vous dominical avec Guillaume Bénèche et Sophie Dolan, c'est le poulet du dimanche. Bon après-midi sur Europe 1.
Europe 1. Bonjour, c'est Laurent Tessier. La liberté d'expression, vous l'entendez sur Europe 1. Dire les choses telles qu'elles sont.
Laurent Tessier, une signature Europe 1, du lundi au vendredi à 7h25. Europe 1.
La radio libre.
Cerise nous dit pourquoi les pros peuvent compter sur Groupama.
Vous n'êtes pas sur le chantier, Arnaud ?
Oula, non, Cerise. Je viens de raccrocher avec un conseiller pour les sinistres de mon entreprise de plomberie. Et là, je dois en appeler un autre pour l'assurance scolaire de ma fille.
Ça en fait des appels pour être un bon père et un bon patron.
Ah ouais, je mélange tout. Je vais finir par prendre une assurance scolaire à un de mes employés si ça continue.
Rassurez-vous, Groupama est là. Votre conseiller unique gère vos contrats pro et perso avec une vision globale de votre situation.
Oh, ça va me changer la vie, Cerise.
Groupama. Groupama. Toujours là pour moi.
Plus d'infos sur groupamapro.fr.
Chantal Latsou, chef de la brigade d'intervention à Akena, que se passe-t-il, monsieur ?
Je voulais m'équiper d'une pergola et on m'a clairement dit de m'adresser à vous parce que...
Hop, hop, hop, j'ai compris. Vous avez bien fait de m'appeler aujourd'hui parce qu'après, ça aurait été trop tard. Les vérandas, les pergolas, les carports, c'est maintenant sur Akena.com.
Akena, la reine des vérandas.
Et les pergolas ?
On te la raconte, le podcast criminel le plus écouté de France.
Je vais vous raconter une histoire mythique.
Crime, passion, faits divers.
Le tapis près de la porte d'entrée est gorgé de sang.
Chaque jour, Christophe Ondelatte vous raconte une nouvelle histoire passionnante.
Ça n'est pas un accident de chasse, c'est une exécution.
Retrouvez Ondelatte raconte en podcast et rien qu'en podcast sur toutes les plateformes d'écoute, le site et l'application Europe 1.
On peut penser que les voitures familiales sont réservées aux familles. Ou on peut se dire que les amis, c'est aussi la famille. Nouveau Dacia Jogger, la familiale jusqu'à 7 places réservées à tous. Découvrez-la à partir de 18 700 euros pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier. Désormais disponible avec moteur hybride 155 chevaux.
Offre à particulier du 1er au 31 janvier pour Dacia Jogger Essential Eco G120, 9 hors option selon le tarif 2229,02 du 8 janvier 2026. Conditions sur Dacia.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Je me suis perdu. Trop d'offres.
Bah, on est là pour les soldes.
T'inquiète, j'ai déjà réservé une croisière Costa, tout inclus.
Ok, on se retrouve à la sortie alors.
Ne